Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Anne Cheng.
Bonjour et bienvenue à tous. Donc, la semaine dernière, nous avons vu comment Montesquieu est intervenu, ou on pourrait dire a été invoqué, convoqué, dans une Chine en pleine situation de crise. Au beau milieu de ce fameux siècle des humiliations dont vous avez la chronologie à l'image, et au moment précis où il en va ni plus ni moins de la survie de la Chine. Je dois dire que mon père, qui est arrivé en 1948 en France, à son époque tardive, me disait encore que dans sa jeunesse, les intellectuels chinois craignaient encore que la Chine soit rayée de la carte. C'est un peu difficile à imaginer maintenant, mais c'était pas si longtemps que ça. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc voilà, je voulais quand même attirer votre attention sur ce fait que Montesquieu n'arrive pas comme ça, comme une fleur au milieu de l'harmonie confucéenne. On est vraiment en pleine crise. Alors, c'est cette Chine qui, depuis le milieu du XIXe siècle, subit les coups de boutoir des guerres de l'opium et qui assiste à la montée en puissance de son voisin immédiat et ancien vassal, à savoir le Japon. Alors, le Japon, avec lequel nous avons déjà vu que les élites chinoises entretiennent des relations complexes, à la fois du fait de la proximité géographique et de la proximité culturelle. Donc il y a à la fois une relation de rivalité et en même temps de solidarité, en quelque sorte de solidarité culturelle. Alors, nous avons également vu comment ces élites chinoises, dont je rappelle qu'elles sont au service de la dynastie Manchu depuis le XVIIe siècle, ces élites ont quelques difficultés à accuser et encaisser le coup dans un premier temps. Et donc, ce qu'elles font, c'est qu'elles essayent d'abord de se rassurer. Elles se disent, certes, force est de reconnaître la supériorité technologique des Occidentaux qui écrasent manifestement nos troupes chinoises avec leur armement, leurs canons, leurs fusils, etc. Mais est-ce qu'il ne nous suffit pas, au fond, de nous équiper du même armement et des mêmes moyens matériels sans pour autant toucher à ce qui a toujours fait l'essence chinoise, hein, c'est-à-dire donc ce fond d'éthique confucéenne et cette vision du monde très sino-centrée. Alors, la dernière fois, nous parlions déjà de cette idée, justement, du ce qu'on a résumé dans cette formule, du zhongqi xiyun, c'est-à-dire donc de garder le corps, la constitution fondamentale de la Chine, dénommée comme Zhong, c'est-à-dire comme milieu, centre, et se contenter de Yong, c'est-à-dire en fait d'utiliser, d'instrumentaliser donc le Xi, c'est-à-dire l'Ouest ou l'Occident. Alors, cette idée a d'abord été mise en avant par ce grand personnage justement des élites administratives manchoues, ce Feng Kuifeng que vous avez à l'image, qui est né en 1809, mort en 1874. Et vous avez en surimpression sur ces photos donc l'expression chinoise « ziqiang », ce qui veut dire se renforcer soi-même. Hein. Donc c'est lui qui a lancé toute une série de, d'opérations pour justement essayer de redonner des forces justement à la Chine, notamment en s'équipant d'un armement moderne. Alors vous voyez ces, ces officiers donc habillés de, à la façon manchoue, hein, donc la, la natte et la coiffe manchoue, qui étudie le mode d'emploi donc de ce canon. Vous voyez, ils ont quelques, quelques munitions derrière. Enfin bon, donc on voit que c'est des gens qui sont pas très très habitués à ce genre de d'équipement. Hein. Et cette idée justement de rester fondamentalement chinois tout en empruntant la supériorité technologique occidentale a été amenée à son summum d'expression par cet autre personnage, Zhang Zhetong, qui est né en 1837, mort en 1909, qui, dans un essai qui date de 1898, hein, qui s'intitule Quan Xuepian, c'est-à-dire donc un essai sur l'exhortation à l'étude, hein, où en fait il défend l'idée qu'il faut justement réformer le système éducationnel chinois, hein, pour justement redonner du dynamisme, de la force à la, à la, à la Chine, hein, et dans lequel il insiste aussi sur une disons une réforme assez conservatrice, hein, une réforme qui ne change pas trop les choses. C'est lui donc qui met au point cette expression Zhong Xue Wei Ti Xi Xue Wei Yong, hein, c'est-à-dire donc qui est raccourci dans le Zhong Ti Xi Yong dont je parlais à l'instant. Hein. Alors je rappelle que la même année 1898, Kang Youwei et son principal disciple Liang Qichao sont à la tête d'une tentative de réforme des institutions politiques qui se solde par un fiasco total qui fait qu'ils doivent tous les deux fuir la Chine. Hein. Kang Youwei se lance dans un très grand périple à travers le monde. Et Liang Qichao, lui, prend refuge au Japon, hein, où il va rester jusqu'à l'instauration de la République chinoise, donc en 1912. Alors, pendant que Liang Qichao met à profit son exil au Japon et met à profit donc la proximité du chinois avec le japonais pour prendre connaissance des idées occidentales qui sont largement traduites par les Japonais à l'époque. Et pendant que Liang Qichao s'occupe à élaborer et diffuser ses propres idées politiques sur ce qu'il appelle le Xinmin, c'est-à-dire la rénovation du peuple ou la création d'un nouveau citoyen, vous avez cet autre à côté de Liang Qichao sur la diapositive, cet autre passeur d'idées occidentales qu'est Yanfu. Yanfu qui lui est plus âgé que Liang Qichao. Liang Qichao, je rappelle qu'il est né en 1873, mort en 1929. Yanfu lui est né en 1854 et est mort en 1921. Alors Yanfu c'est véritablement un traducteur professionnel qui a été pionnier justement dans ce travail de traduction véritablement de nombreuses œuvres occidentales et qui a ainsi également exercé une influence importante d'abord sur le mouvement réformiste de 1898 et aussi sur la révolution de 1911 qui a conduit à l'instauration de la République. Donc Yanfu c'est quelqu'un du Fujian. Alors, le Fujian, c'est, je rappelle que c'est une province qui fait face à Taïwan. Taïwan est une île qui est juste en face des côtes du Fujian. Donc il est né en 1854 dans cette région. Et donc il a été formé à l'école des chantiers navals de Fuzhou, hein, qui est donc le chef-lieu du Fujian, où il est formé à la fois donc aux sciences, aux technologies occidentales et à l'anglais. La formation se donne en anglais, donc il fait partie de cette toute première génération donc de Chinois qui est formée directement en anglais, et c'est ça qui lui a permis, en tant qu'étudiant boursier, de partir étudier en Angleterre pendant 2 ans, entre 1877 et 1879. Il a été envoyé en particulier à l'école navale de Greenwich à Londres, et il est donc parmi ses premiers étudiants chinois à découvrir des ouvrages en direct anglais qui le persuadent que le secret de la prospérité et de la puissance occidentale réside non seulement dans l'avancement des sciences et des techniques, mais également dans une conception différente du monde. Et c'est ce choc de civilisation. Hein, imaginez un jeune Chinois dans la deuxième moitié du XIXe siècle qui débarque en Angleterre et qui voit un monde complètement nouveau s'ouvrir devant lui. C'est justement ce choc qui l'amène à être en confrontation directe avec Zhang Zhetong, donc le personnage dont je vous parlais précédemment. Et en fait, c'est en réalité contre l'idée de Yan Fu que vous avez en haut de la diapositive, yi zi you wei qi, yi min zhu wei yong, c'est-à-dire donc prendre comme corps ou constitution la liberté et prendre comme application ou comme fonction la démocratie, min zhu. Alors, Yan Fu part avec cette idée, et c'est précisément à cette idée que Zhang Zhetong, qui est donc de la génération précédente, répond directement avec son idée du Zhong Ti Xiong. C'est-à-dire que Zhang Zhetong, celui, en fait, s'agrippe quand même à une essence chinoise, tout en admettant qu'il faut emprunter un petit peu de la science et de la technologie occidentale pour justement faire face aux agressions des puissances européennes. Mais Yan Fu est en train de dire qu'il faut carrément changer de paradigme, comme on dit maintenant, hein, c'est-à-dire véritablement ça suffit pas d'emprunter du bout des lèvres des petits bouts de science et de technologie, il faut carrément changer la conception du monde. Alors on comprend bien que pour Zhang Zhetong, qui dans son essai de 1898 en fait répond en réalité au jeune Yan Fu, il a un chapitre dans cet essai qui s'intitule « La centralisation du pouvoir », hein, et il prend en compte toute la nouvelle terminologie concernant justement la question de savoir qui doit détenir le pouvoir. Donc vous avez déjà chez Zhang Zhetong la référence au « Min Quan », c'est-à-dire donc au pouvoir donné au peuple, au Zizhou Zhiquan, c'est-à-dire le pouvoir d'autonomie, c'est-à-dire le pouvoir d'autodécision du peuple. Alors, autant d'idées auxquelles Zhang Zhetong est farouchement opposé, hein, parce qu'il dit ça c'est vraiment de la subversion pure et simple, hein, et ce qu'il nous faut en Chine, c'est de garder donc une stabilité donc de l'État, donc pas question d'adopter ces idées nouvelles, alors que Yan Fu, lui, au contraire, enfin, dit que c'est une question de vie ou de mort, de changer complètement de taquet. Hein. Alors, la preuve en est dans cette lettre de 1902, qu'il adresse au directeur du journal diplomatique, le Waijiaobao. Alors, Waijiaobao Zhurenshu, donc cette lettre, dans laquelle il dit donc, Ti Yongzhe, Ji Yiwu, Er Yenzhe Ye, Yo Niuzhe Ti, Ze Yo Fuzhongzhe Yong, Yo Mazhe Ti, Ze Yo Zhiyunzhe Yong, Wei Wen Yi Niu Wei Ti, Yi Ma Wei Yongzhe Ye.中西学之唯一也，如其种人之面目然，不可强未思也。故中学有中学之体用，西学有西学之体用，分之则并立，合之则两亡。Alors, traduction, donc le ti et le yong, c'est-à-dire donc le corps, la constitution et la fonctionne sont qu'une seule et même chose, c'est-à-dire ne sont que les deux faces d'une seule et même chose. Si on parle du corps d'un bœuf, on parle de la fonction de porter des charges lourdes. Si on parle du corps d'un cheval, on parle de la fonction de couvrir de longues distances. On n'a jamais entendu parler d'un corps de bœuf avec une fonction de cheval. Le savoir chinois et le savoir occidental sont aussi différents que le sont les apparences physiques des Chinois et des Occidentaux. On ne peut pas les forcer à se ressembler. Ainsi donc, le savoir chinois a son tiyong propre, de même que le savoir occidental a son tiyong propre.Les maintenir distincts, c'est leur permettre de coexister. Et vouloir les unir, au contraire, c'est les faire disparaître tous les deux. Donc, entre les deux, qu'est-ce qu'on préfère ? Donc, voilà. Donc là, en fait, d'une certaine façon, Yanfu est en train de dire clairement, il n'y a pas de dilemme. De toute façon, on n'a pas le choix.Il va falloir donc que nous adoptions ce tillon occidental. Vous voyez à quel point donc Yanfu s'oppose frontalement donc à la formule de Zhang Zhetong, puisque pour lui vouloir forcer un bœuf à courir comme un cheval, c'est du non-sens absolu, avec peut-être en plus en fait l'allusion à la lourdeur du bœuf, qui serait un peu le symbole de la lourdeur de la tradition chinoise, et la vitesse du cheval, qui serait le symbole du dynamisme et de la puissance occidentale. Alors, la confrontation est telle que, en fait, dès 1895, c'est-à-dire au lendemain de la défaite de la Chine contre le Japon, donc qui s'est soldé par le traité de Shimonoseki. On l'avait vu dans le rappel chronologique, 1895, premier gros traumatisme après les guerres de l'opium, 100 ans, cette défaite contre le Japon. Alors évidemment, là on est dans l'humiliation totale, puisque la Chine, qui s'est toujours considérée comme le centre de la civilisation, etc., est battue à plate couture par son voisin, qu'elle a toujours considéré comme une espèce de minuscule et négligeable vassal. Ça, évidemment, dans la classe lettrée, ça provoque des réactions assez, assez vives. Alors, Yanfu, lui, sa façon de réagir, c'est de rédiger 4 textes qui ont été, on a de la chance, traduits en français, sous le titre « Les manifestes de Yanfu », paru chez Fayard en 1977. La traduction est de quelqu'un dont je profite de l'occasion pour évoquer la mémoire, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a eu aussi un parcours très particulier, à savoir donc François Huang, peut-être certains d'entre vous l'ont connu, qui est né en Chine à Suzhou, dans le Jiangsu, près de Shanghai, en 1911, et qui est mort en France en 1990. Donc, Huang Jiacheng, de son nom chinois, a quitté la Chine en 1932 avec une bourse d'études. Donc, d'une certaine façon, là, on commence à voir s'esquisser un destin qui ressemble un peu à celui de Yan Fu. Il est accueilli à son arrivée en France au foyer de l'Institut franco-chinois de Lyon, où il rencontre Jean Val, spécialiste de la philosophie hegélienne. Et cette rencontre l'amène à renoncer à ses études scientifiques pour la philosophie, et ça le met sur la voie de la recherche des fondements métaphysiques de l'existence personnelle. C'est-à-dire que cette rencontre provoque une espèce de crise existentielle qui fait tant et si bien qu'il finit, tenez-vous bien, par François Huang, donc Huang Jiacheng, se convertir au catholicisme en 1945, après un cheminement extrêmement complexe où il rencontre des grands jésuites comme Henri de Lubac et Jean Danielou, et également l'abbé Édouard Dupéret, aumônier de ce foyer franco-chinois de Lyon. Et il pousse le zèle, si j'ose dire, à être ordonné prêtre en 1952 dans la congrégation de l'oratoire. Donc c'est un prêtre oratorien, et il sera nommé plus tard vicaire de l'église Saint-Eustache, qui domine donc le forum des Halles. Pendant ce temps-là, il enseigne également la langue et la philosophie chinoise à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales, où j'ai moi-même enseigné. Et il enseigne également le bouddhisme à l'Institut catholique de Paris. Alors, parmi ses œuvres, à part justement cette traduction des manifestes de Yan Fu, vous avez une traduction que je cite toujours du Tao Te Ching du Lao Tzu, qu'il a traduit avec le grand poète et traducteur Pierre Léris. Pierre Léris, dont je rappelle qu'il a quand même traduit T.S. Eliot. C'est pas exactement de la tarte, hein, donc là, vous voyez l'alliance entre François Huang et Pierre Léris a donné véritablement un bijou de traduction qui est cette traduction du Tao Te Ching, qui respecte absolument la métrique, hein, et le rythme du texte original, même si ça n'est pas une traduction savante. Hein. Si vous voulez une traduction savante, c'est pas celle-là qu'il faut choisir. Donc c'est une traduction qui est paru d'abord en 1949 et qui a été reprise, comme vous le voyez à l'image, aux éditions du Seuil dans la collection Point Sagesse en 1979. Et à côté, vous avez la couverture de ce livre. C'est un petit livre, hein, donc là aussi on n'entre pas dans les détails, mais je trouve qu'il est très utile pour, comme première approche, le bouddhisme de l'Inde à la Chine, paru chez Fayard en 1963. Alors, donc, je reviens à mes manifestes de Yan Fu, qui sont traduits ici par François Huang. Je rappelle qu'il s'agit de quatre textes qui sont parus successivement en 1895, après la fin de cette guerre sino-japonaise qui s'est soldée par l'échec cuisant de la Chine. Les quatre textes sont publiés dans un journal de Tianjin, le Zhibao, hein, c'est-à-dire littéralement le journal de la droiture, qui a été créé par un Allemand, un certain Constantin von Hanneken. Alors, donc, nous sommes dans ce contexte justement de grosses discussions, de gros débats sur cette idée du Zhong Ti Xi Yong, hein, c'est-à-dire est-ce qu'il faut justement tout jeter à la poubelle pour embrasser les théories occidentales qui sont au fondement de la prospérité et de la puissance occidentale, ou est-ce qu'au contraire, il faut quand même à tout prix essayer de conserver un fonds chinois? Alors, voilà ce qu'en pense Yan Fu dans sa jeunesse. Dans le premier manifeste, Le Shebian Zhiji, que François Huang a traduit par « De la rapidité des mutations du monde », Yan Fu explique la différence des conceptions du monde chinoise et occidentale. Alors, selon lui, la vision chinoise confucéenne de l'harmonie sociale et politique est complètement dépassée, puisque, en fait, l'agressivité des puissances occidentales oblige la Chine à s'adapter d'urgence aux valeurs occidentales. Donc là, il y a vraiment péril en la demeure, il y a vraiment, enfin, il y a urgence pour de véritablement changer de paradigme. Le deuxième manifeste, Yuanqiang, traduit par « Aux origines de la puissance », indique les moyens par lesquels la Chine peut réaliser cet objectif, c'est-à-dire donc s'adapter aux valeurs et à la vision du monde occidental. Alors, le troisième texte, Jiu Wang Jue Lun, c'est-à-dire donc propos décisifs sur le salut national, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est le salut national, la Chine joue son va-tout. Yan Fu, dans ce texte, s'en prend avec virulence au concours mandarinaux, alors probablement parce qu'il les a ratés. Il s'est présenté plusieurs fois, mais il a raté. Mais alors, donc, enfin, évidemment, c'est la réaction, vous allez dire, des raisins sont trop verts, ils ne sont pas assez mûrs, etc. Mais en fait, il justifie en fait son échec dans ce troisième texte, parce que, selon lui, l'érudition confucianiste requise pour réussir à ces examens mandarinaux est devenue totalement inutile, et donc il défend la science occidentale comme seul salut possible pour la Chine. Nous allons lire d'ailleurs un extrait de ce troisième texte. Et dans son quatrième manifeste, qui s'intitule Pi-Han, réfutation de Han Yu. Han s'est mis pour Han Yu, qui est un célèbre penseur de la dynastie Tang, donc au 8e siècle, qui justement en fait était déjà une sorte de conservateur avant l'heure, parce qu'il défendait à l'époque l'essence confucéenne contre l'influence grandissante du bouddhisme à l'époque. Donc Han Yu a un texte célèbre où il dit mais le bouddhisme c'est une religion étrangère portée par un type hirsute qui à moitié nu, etc. On va quand même pas se laisser impressionner par le Bouddha indien. Nous avons notre essence confucéenne et on a besoin de rien d'autre. Bon, alors donc là en fait Yan Fu ressort ce texte, et on imagine que derrière Yan Fu se profile bien sûr le conservateur qui est Zhang Zhidong. Bon. Et dans ce texte, Yan Fu fait une critique acerbe de la monarchie que défend Zhang Zhidong, et fait un plaidoyer en règle pour la démocratie. Alors, comme je disais, donc voici un extrait du troisième texte, propos décisifs sur le salut national, où on a justement, enfin, toute la, comment dire, la hargne de Yan Fu qui s'est raté donc aux examens mandarinaux, au concours mandarinaux, et qui nous dit ceci. Je cite: la vérité la plus évidente au monde est nécessité par la force des choses, c'est que si aujourd'hui la Chine ne change pas ses institutions, elle périra. Ça, c'est quand même enfin une phrase radicale. Hein, bon, où commencer la réforme? À mon avis, rien de plus urgent que l'abandon du système des concours sur les essais à huit jambes. C'est comme ça que François Franck traduit le Park Won. Park Won, c'est donc littéralement le Won, la forme de prose et de rhétorique de ces dissertations de concours à huit jambes, c'est-à-dire en huit parties. En France, nous sommes habitués à la dissertation en trois parties. Hein. Bon, ici, vous avez le même formatage extrêmement conventionnel. Hein. Alors, je rappelle que ici, en fait, tout en feignant de s'en prendre à Han Yu, un pauvre auteur du 8e siècle, en fait, ici, il faut garder à l'esprit que Yan Fu s'attaque à Zhang Zhetong. Zhang Zhetong, dans son essai de 1898, justement, prône une réforme de l'éducation, mais là, Yan Fu est en train de nous dire que ce n'est pas juste des réformettes qu'il nous faut, c'est vraiment un changement total. Alors, je continue. Alors, non que l'essai à huit jambes soit capable par lui-même de porter directement atteinte à l'État, sa nuisance consiste en ce qu'il empêche l'Empire d'avoir des hommes de valeur. Bon, alors là, c'est quand même un paradoxe parce qu'en fait, en principe, le système des concours mandarinaux était fait précisément pour recruter les meilleurs. Par concours. Bon, alors là, Yan Fu nous démolit ça en une phrase en disant, ben en fait, ça ne sert pas à recruter les meilleurs. Pourquoi empêche-t-il l'Empire d'obtenir des hommes de valeur? Il engendre, à mon avis, trois grands méfaits, dont le premier est l'obstruction de l'intelligence. Enfin, je vous ferai remarquer que. En France, où nous avons un petit peu hérité de ce système des concours mandarinaux, n'est-ce pas, nous pouvons en prendre de la graine aussi de ce texte. Hein. Bon. Alors, premier méfait, obstruction de l'intelligence. Le second méfait, c'est d'avoir corrompu le sens moral des populations. Pourquoi les jeunes ont-ils un tel désir de devenir des lettrés, c'est-à-dire d'entrer dans la bureaucratie impériale? Quel fut le souci véritable de l'État en instituant cette classe des lettrés? Certes, il y avait le souci de former des hommes qui se maintiendraient dans la voie droite et auraient tous un caractère intègre en s'écartant des mauvais exemples afin que, lorsqu'ils accéderaient aux postes gouvernementaux, ils fissent preuve de probité et d'équité. Mais aujourd'hui, que se passe-t-il en fait? Pour qu'un candidat soit reçu au concours, il est obligé continuellement de faire acte de plagiat et d'obséquiosité, au point que sa conscience du bien et du mal, son sens du vrai et du faux, éprouvés jour et nuit, finissent par s'éteindre presque totalement. Quoi d'étonnant qu'après leur visite au maître et leur inscription sur la liste d'admission, ils prennent le carriérisme pour style d'école et l'opportunisme pour recette personnelle. Enténébrés comme des animaux dans une même tanière, ils ne songent chacun de son côté qu'à leur propre intérêt. Comment peuvent-ils encore se soucier du bien-être du peuple et des projets nationaux? Le troisième méfait, c'est d'accroître le nombre des oisifs. En Chine, les lettrés étaient suivis jadis d'une dizaine de chariots et d'une centaine de domestiques. Mencius, 4e siècle avant Jésus-Christ, avait déjà commencé à codifier cet abus. Aujourd'hui, les lettrés n'ont plus de nobles ambitions. Ils se laissent entretenir sans travailler, autrement dit, ils sont payés pour ne rien faire, et essuient toutes sortes de moqueries. La Chine devient, alors là ça commence à être franchement violent, hein, la Chine devient comme un pourceau couvert de parasites dans tous les replis de son corps. Bon, alors quand on parle de Zhongqi, hein, ben voilà, en fait, voilà le corps que Yan Fu, voilà comment Yan Fu représente le corps de la Chine, un pourceau couvert de parasites dans tous les replis de son corps. Il viendra sûrement un jour où le boucher brandira son couteau et préparera une bassine pour l'égorger. Faut-il attendre ce moment pour gémir sur son sort ? Bon, fin de la citation. Je vous ai cité ce texte, j'ai fait des coupes, évidemment, parce que c'est un texte assez long, mais pour vous montrer, alors non seulement justement la virulence de ces jeunes élites chinoises à la fin du XIXe siècle, hein, qui voient très bien en fait où en est la Chine, qui voient ces vieilles générations de serviteurs de l'État manchou proposer de vagues petites réformes histoire d'avoir l'air un petit peu ouvert, hein, mais qui disent clairement que ça suffit absolument pas. De la même façon que Liang Qichao, Yan Fu s'est employé dans sa vie relativement courte à faire connaître à ses compatriotes chinois les œuvres philosophiques occidentales par ses traductions et par ses textes. Mais à la différence de Liang Qichao, qui lui traduit des œuvres occidentales par la médiation japonaise, hein, puisqu'il est réfugié au Japon, donc il lit les traductions japonaises, hein, puisqu'il lit les kanji, donc ça lui facilite largement la tâche. Au contraire, donc Yan Fu, lui, les traduit directement de l'anglais, hein, qu'il connaît bien. Ce qui le différencie de Liang Qichao, qui lui évidemment en étant réfugié au Japon est assez finalement pro-japonais, hein, évidemment puisqu'il dépend du Japon pour sa survie, Yan Fu lui est vent debout contre le Japon, hein, c'est-à-dire que c'est pas tellement étonnant parce que Yan Fu a été formé encore une fois à l'école navale et donc il a été encore plus profondément marqué par les défaites maritimes de la Chine face au Japon. Les Japonais ont une très nette supériorité donc sur la mer, hein. Alors que les Chinois sont pas du tout des marins, hein. Donc on s'est aperçu que la marine, enfin le peu de marine manchoue qu'il y avait, hein, était composée en fait de marins qui savaient pas nager. Donc vous voyez, enfin on en était là. Bon, alors. Yan Fu, évidemment, ne peut pas éviter de parler justement des réformes qu'il voit se passer au Japon, hein, depuis 1868, hein, mais en fait, il ne prône absolument pas l'idée en fait, d'apprendre du Japon. En fait, pour lui, la montée en puissance du Japon est beaucoup trop rapide, est trop artificielle pour avoir des racines suffisamment profondes et des fondements suffisamment solides. Hein, parce que ce que Yan Fu veut faire, c'est véritablement réformer la Chine en profondeur, hein, et pas faire comme le Japon qui emprunte à toute allure et à tout va de l'Occident et à qui Yan Fu reproche justement de vouloir conquérir le monde uniquement par la force, hein, par la puissance, hein, alors que justement pendant ce temps-là, le Japon ne construit pas justement des fondements solides selon Yan Fu. Pour la Chine, hein, il est absolument pas question justement de prendre exemple sur le Japon parce que Yan Fu a même l'air de dire que le Japon est voué en fait à échouer assez rapidement. Alors certes, le Japon a connu entre-temps, enfin pendant tout première moitié du XXe siècle, une montée en puissance spectaculaire qui fait d'ailleurs penser beaucoup à ce qu'est la Chine aujourd'hui, hein. Vous avez beaucoup d'observateurs, de géopoliticiens en fait qui font le parallèle entre le Japon de Meiji et la Chine d'aujourd'hui. Alors, évidemment, tout le monde se demande combien de temps est-ce que cette montée en puissance spectaculaire va pouvoir durer. Donc, selon Yinfo, apparemment, c'est une montée en puissance du Japon qui n'est pas assez solide, justement, pour pouvoir durer. Alors, contrairement donc à Liang Qichao, Yinfo, lui, investit massivement dans la traduction d'ouvrages entiers. Liang Qichao, lui, en fait, fait un peu de la compilation à partir de ce qu'il lit dans les traductions japonaises, alors que Yinfo, lui, véritablement s'attelle à un travail absolument gigantesque, herculéen, de traduction qu'il fait entre à peu près en une dizaine d'années, entre 1898 et 1909. Voilà donc la liste des grandes traductions de Yinfo, qui commence par le Evolution and Ethics de Thomas Henry Huxley, donc traduit en chinois par Tian Yinlun, donc en 1898. Alors ça, c'est vraiment la traduction, la toute première, mais celle qui a eu probablement le plus d'influence dans les milieux intellectuels chinois. Vous avez la couverture donc de la traduction en chinois. Vous voyez que la graphie des caractères est assez archaïsante, et ça fait peut-être écho justement au style extrêmement classicisant de Yinfo. Alors, on s'est beaucoup interrogé justement, et vous avez à côté, bien sûr, la photo de Thomas Huxley. Vous avez tous ces Anglais victoriens, tous avec des gros favoris, des belles barbes et tout ça. Alors, vous avez ce contraste entre quelqu'un qui, pour la première fois de l'histoire chinoise, donc traduit directement d'un ouvrage en anglais, mais il le traduit en chinois classique, c'est-à-dire pas dans le chinois, disons, parlé, qui commence à s'imposer vers la fin du 19e, au tout début du 20e siècle. Là, en fait, il choisit de le traduire dans la langue des lettrés, et ça lui a été beaucoup reproché, parce que justement, en fait, beaucoup de ses contemporains lui ont dit « Mais est-ce que vous ne vous souciez pas un peu de nos étudiants, nos jeunes étudiants qui ne sont plus tellement habitués à lire du classique comme ça? Est-ce que vous ne pourriez pas être un peu plus accessible, justement, pour la jeune génération ?» Et Yinfo se défend, justement, en disant « Mais moi, je m'adresse à mes pères, c'est-à-dire mes pères, P-A-I-R-S, et pas mes pères P-E-R-S, P-R-E-S, parce que justement, en fait, ce sont eux qui sont amenés à réaliser les réformes que j'appelle de mes voeux, et je ne m'adresse pas donc aux petits jeunes qui vont nous suivre. Bon, alors, je reviens donc à ma liste de traductions. Vous avez ensuite, quelques années plus tard, Adam Smith, The Wealth of Nations, excusez du peu, donc traduit sous le titre de Yinfo, donc en 1901. Ensuite, Herbert Spencer, The Study of Sociology, Qun Xue Yi Yan, en 1903. Oui, j'ai oublié de traduire en français du coup. Alors donc Huxley, donc l'évolution et éthique. Ensuite, la richesse des nations de Adam Smith, l'étude de la sociologie. Enfin, en quatrième lieu, le On Liberty de John Stuart Mill, que Yinfo ne traduit pas par Ziyo, qui est la traduction de liberté qui a été retenue ensuite. Ziyo, qui veut dire en fait agir de son propre chef, agir. Comme on dirait en latin, sponte sua, c'est-à-dire en fait de son propre mouvement. Yinfo choisit de le traduire par Quanjie Lun, c'est-à-dire donc la distinction entre Qun, c'est-à-dire la foule, ou on dirait plus tard les masses, et Qi et moi. Hein, c'est-à-dire donc ce qu'il y a comme différence entre ce qui mène la foule et ce qui me mène moi. Hein. Donc il a cette façon très, très particulière de traduire justement cette notion de liberté. Ensuite, vous avez Edward Jenks, History of Politics, donc une histoire de la politique, que Yanfu traduit par She Hui Tong Quan, hein, c'est-à-dire donc une interprétation générale de la société, hein, parue en 1903. Et enfin, celui qui nous intéresse le plus, bien sûr, Montesquieu, de l'esprit des lois, qu'il traduit aussi à sa façon par fa yi, c'est-à-dire le sens ou l'intention des lois, hein, et qui lui a demandé plusieurs années entre 1904 et 1909, on va y revenir. Ensuite, vous avez de nouveau John Stuart Mill, A System of Logic, donc un système de la logique, que Yanfu traduit par Mula Mingxue. Donc Mula, c'est Mill, donc le Mingxue. Là aussi, Yanfu choisit un terme de la tradition chinoise, le Mingxue, c'est-à-dire littéralement l'école des noms, hein, pour traduire cette notion de logique. Hein. Donc après, à la suite, vous aurez en fait d'autres traductions justement de logique. La traduction qui a été retenue, c'est une traduction en fait phonétique. On parle maintenant de logic comme logic. Hein, bon. Donc cette traduction aussi qui lui a valu pas mal d'années de travail, 1905-1912. Et enfin, William Stanley Jevons, Primer of Logic. Donc de Jevons, une sorte d'introduction à la logique. Hein, qui est traduit par Mingxue Qianshuo, c'est-à-dire donc une présentation un peu superficielle donc de la logique qui date de 1909. Alors vous évidemment remarquerez que parmi ces huit ouvrages traduits, sept sont d'auteurs anglais et un seul est d'un auteur français, c'est notre Montesquieu national, mais que Yanfu traduit quand même à partir de l'anglais parce qu'il ne lit pas le français, donc il le traduit probablement à partir de la version anglaise de Thomas Nugent qui a été faite peu après donc la parution de l'Esprit des lois en France. Alors revenons donc un instant sur justement cette traduction par Yanfu de l'Esprit des lois de Montesquieu qui traduit par Fa Yi. Alors là aussi, les caractères sur la couverture ont toujours ce style archaïsant. Hein, c'est quand même assez, assez paradoxal. Hein. On sait que Yanfu a entrepris ce travail colossal. Hein, quelqu'un la dernière fois me disait, pourtant quelqu'un qui est un bon français me dit, j'ai pas lu l'Esprit des lois, je trouve que c'est trop long, c'est trop ennuyeux. Ben, écoutez, je pense que c'est quand même un de nos grands classiques. Donc d'entreprendre la traduction en chinois de ce monument, effectivement, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être remarqué. Mais Yanfu entreprend ce travail parce qu'il n'est pas content des essais de traduction précédents, parce qu'il y en a eu, hein, à partir du japonais, il n'est pas content. Et donc, il travaille sur cette traduction qui paraît en sept opuscules de 1904 à 1909 et qui est ensuite édité comme un ensemble en 1913 par les presses commerciales de Shanghai, qui sont vraiment les presses principales de Chine à ce moment-là. Donc, dans un commentaire sur le chapitre concernant la constitution donc d'Angleterre, hein, parce que en fait Montesquieu, c'est un fait bien connu, avait une très grande admiration justement pour le système politique anglais de son temps, hein, qu'il oppose évidemment à ce qu'il critique, à savoir justement la monarchie absolue dans le style de Louis XIV. Hein, bon, Yen Fu écrit ceci, hein, vous avez donc le titre, Meng de Sejiu Fa Yi, hein, donc l'esprit des lois de Montesquieu, vous avez cette transcription chinoise. Et dans ce passage, donc, Yen Fu dit ceci, Jie Hu, Xin Yu Zhe, 中西之不可同之一事也，犹亦不宁出游欧时，常入法庭，观其金玉，归敌数日，如有所失，常与乡音郭先生为英国与诸欧之所以富强，公理日深。 其端自此一事，先生深以未然，见未着实。 Donc, alors, ça commence par une exclamation, alors qui est très typique justement de la langue classique chinoise. Hélas, la procédure pénale en Chine est foncièrement différente de celle de l'Occident. Lorsque j'ai voyagé pour la première fois en Europe, hein, c'est-à-dire lors de son séjour en Angleterre de 1877 à 79, j'assistais souvent à des séances au tribunal. Là, notre jeune Yen Fu a compris qu'en fait, une institution clé du système politique européen et en particulier anglais, hein, c'est le système judiciaire. Hein, donc, pendant son séjour, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne va pas chez Harrods, il va écouter donc les jugements au tribunal. Chaque fois que j'en revenais, je passais des journées dans une sorte de transe, comme si j'avais perdu quelque chose. Hein. Et j'ai dit un jour à Monsieur Guo, alors Guo, Guo Songtao, c'est le tout premier ambassadeur de Chine en Angleterre. Hein. Alors là, j'ouvre une parenthèse, il faut quand même se rendre compte que c'est seulement au milieu du 19e siècle que la Chine commence à envoyer des ambassadeurs à l'étranger. Hein, parce qu'auparavant, hein, c'est le mouvement contraire qui prévaut. Hein, c'est-à-dire que ce sont donc les pays vassaux et les pays étrangers qui viennent payer l'hommage et le tribut à la cour impériale. Hein. Bon, alors donc là, vous avez donc une inversion du mouvement qui est tout à fait intéressante. Donc, ce Guo Songtao, c'est probablement un des esprits les plus ouverts, enfin, de la Chine de l'époque, et donc il avait lié cette amitié avec Yen Fu, hein, puisqu'ils étaient tous les deux en Angleterre. Donc, j'ai dit un jour à Monsieur Guo que la raison pour laquelle la Grande-Bretagne et les autres nations d'Europe étaient prospères et puissantes et que le principe de justice se répandait de jour en jour, ce n'était rien d'autre que l'application de l'égalité de droit devant les lois. L'ambassadeur a été entièrement d'accord et a dit que ma vision était une vision juste, une vision lucide. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, alors, non seulement Yen Fu a quand même très rapidement compris donc que le système judiciaire, qui est justement l'un des piliers du système de la répartition des pouvoirs, hein, entre donc pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Hein, donc dans notre démocratie française, nous voyons que il y a encore des problèmes dans cette répartition des pouvoirs, n'est-ce pas ? Bon, Yen Fu a également compris, hein, que si justement on veut comprendre quelque chose aux démocraties constitutionnelles européennes, il faut lire Montesquieu. Et donc, il a beau avoir traduit massivement donc des auteurs anglais, hein, mais il accorde une attention particulière donc à Montesquieu, et c'est ça qui nous intéresse ici. En 1906, vous l'avez en bas de la diapositive, donc il publie donc une traduction des 8 chapitres de l'Esprit des lois qui porte sur l'Empire chinois. Hein. Parce que Montesquieu, vous le savez, n'a pas parlé de la Chine uniquement dans ce fameux passage qui se termine par cette phrase si controversée, hein, la Chine est donc un État despotique, etc. Hein. Il a parlé de la Chine dans 8 endroits différents, hein, donc ça montre que l'intérêt de Montesquieu pour la Chine. Et donc, vous avez à l'inverse un intérêt marqué de Yen Fu pour Montesquieu et sa vision de la Chine. Et c'est ce qu'il fait donc dans ses « Meng de Si Jiu Fa Yi Zhi Na Lun », c'est-à-dire donc des essais sur la Chine telle qu'elle apparaît dans l'Esprit des lois de Montesquieu. Alors ici, on remarque au passage que Yen Fu ne traduit pas Chine par « Zhongguo », c'est-à-dire par le pays du milieu, l'empire du milieu, mais par Zhena. Zhena, qui est une translittération phonétique de China. China, qui lui-même est un terme sanskrit, pour traduire justement la Chine. Et donc, c'est une translittération phonétique que les Japonais ont adopté au XIXe siècle, justement pour effacer la référence à la centralité chinoise, vous comprenez ? Donc ça, c'était une astuce, justement, pour parler de la Chine, comme si c'était donc une nation parmi d'autres. Hein. Alors que si vous dites « Zhongguo », le pays du milieu, c'est reconnaître cette centralité chinoise. Bien. Donc le fait de publier ces séparément la traduction de ces 8 chapitres, hein, de l'Esprit des lois, ça montre bien que Yen Fu accorde une importance particulière donc à notre auteur. Il fait précéder donc cette traduction, hein, d'une biographie, hein, de Montesquieu. Il présente la vie et l'œuvre qui est présenté de façon très différente de celle de Liang Qichao. Liang Qichao, lui, enfin, s'enflamme, donc il présente Montesquieu de façon absolument dithyrambique, hein, comme une sorte de héros culturel, alors que Yen Fu, en fait, présente Montesquieu de façon très académique, hein, comme un précurseur de Voltaire et de Rousseau. Et il souligne donc en particulier l'impact de l'Esprit des lois sur le célèbre code Napoléon de 1804, qui est devenu donc le modèle des lois modernes. Donc pour lui, l'importance de Montesquieu, c'est véritablement la place qu'il a occupée dans justement l'élaboration de cette démocratie constitutionnelle qui tient tant à cœur à Yen Fu. Bon, alors, je suis obligée de m'arrêter là pour aujourd'hui et pour cette année. Hein. Nous reprenons nos travaux ici même, à la même heure, le jeudi 11 janvier. Hein. Nous allons justement en terminer avec cette réception de Montesquieu en Chine. Hein, donc, après avoir inversé le regard, nous allons de nouveau, en fait, nous tourner de l'autre côté pour voir justement, en fait, dans quelle mesure est-ce que la Chine que décrit Montesquieu est véritablement despotique. Hein, ça, c'est une question qui a été de la plus haute importance justement pour les intellectuels de la Chine moderne et, comme on l'a vu, aussi contemporaine, hein, pour quelqu'un comme Bai Tongdong. Mais il s'agit maintenant de voir de façon historique si ce verdict est juste. Hein. Alors, en attendant, donc, quelques lectures au cas où vous vous ennuieriez pendant les vacances de fin d'année. Hein. Vous avez donc en anglais à gauche de la diapositive, un gros volume édité par une équipe de collègues allemands, donc Michael Lackner, Ivo Amelung et Joachim Kurz, qui ont mis au point donc ce volume tout à fait important, justement pour comprendre comment les nouvelles idées occidentales ont été importées en Chine. Ça s'intitule New Terms for New Ideas: Western Knowledge and Lexical Change in Late Imperial China. Donc nouveaux termes pour idées nouvelles. Le savoir occidental et le changement lexical dans la Chine de la fin de l'Empire. C'est paru chez Brill en 2001. Et à droite de la diapositive, vous avez donc « Imagining the people, Chinese intellectuals and the concept of citizenship, 1890-1920 ». Donc « Imaginer le peuple », les intellectuels chinois et le concept de citoyenneté entre 1890 et 1920, édité par Joshua Fogel et Peter Zarrow. Joshua Fogel, nous avons déjà vu son nom, puisque c'est, je vous l'ai présenté comme un grand passeur entre le Japon et la Chine, et Peter Zarrow, qui est un excellent spécialiste justement de cette période charnière entre la fin du 19e et le début du 20e. Et puis, pour ne pas parler que anglais, alors je ne sais pas si je dois vous le recommander, parce que alors, vous avez deux tomes qui font plus de 1000 pages chacun, notre très grand historien, donc Yves Chevrier, dont je vous ai parlé déjà à propos de notre Félix Mahatun, qui a fait sa thèse avec lui. Yves Chevrier, grand monsieur vraiment de justement aussi de cette période charnière, et qui a livré récemment son magnum opus, qu'il a intitulé L'Empire terrestre en deux tomes, mais prenez une grosse valise pour transporter, parce que mais enfin pour ceux d'entre vous qui veulent vraiment aller à fond au fond des choses. Bien, et bonne fête à tous, bon Noël et be nice. Alors, Je vous montre ce post qui est apparu donc sur les réseaux sociaux chinois, parce que en fait vous avez un jeu de mots en chinois. Nice est transcrit nice qui veut dire faire preuve d'une résistance à toute épreuve.
Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.